Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on parle des jeunes majeurs étrangers et on a plein d'invités autour de cette table. Xavier Faris, qui est secrétaire Sud Santé Socio 86, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes venu accompagné de Barbara, qui est donc éducatrice spécialisée pour les mineurs non accompagnés. Bonjour.
Bonjour.
Il y a Mathilde, qui est assistante sociale auprès des jeunes majeurs étrangers. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Claire, qui est éducatrice spécialisée également auprès de ce public. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les quatre d'être là pour nous parler d'une situation, vous voulez nous alerter en fait, une situation qui va évoluer pour ce public-là. Alors d'abord peut-être définir ce que c'est que cette situation de mineurs non accompagnés et de majeurs, de jeunes majeurs étrangers. Peut-être on peut expliquer à notre public qui sont-ils.
Oui, tout à fait. Donc pour les mineurs, il s'agit de mineurs qui arrivent sur le territoire français sans leurs parents et qui sont reconnus donc mineurs et sans leurs parents, donc isolés. Et ils rentrent dans le cadre de la protection de l'enfance avec une décision de justice où le département doit les prendre en charge jusqu'à leur majorité.
Et alors, qui les prend en charge concrètement sur le territoire? Donc, vos services, mais quel est l'accompagnement?
C'est un accompagnement global sur l'insertion scolaire, sur l'insertion professionnelle, sur les démarches administratives. On les accompagne jusqu'à leur majorité aussi sur le dossier préfecture. Voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent trouver leur place dans la société et qu'on puisse répondre à leurs projets.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que cette prise en charge, elle est réalisée par différentes associations qui sont en général financées par le département. Et donc des services, il y en a plusieurs et dans plusieurs associations qui ont chacune un peu leur spécificité. Voilà.
Est-ce que vous voulez présenter la nouvelle venue? Votre prénom, dites-nous.
Donc moi, c'est Lucie.
Lucie, quelle est votre fonction, votre métier?
Alors moi, je suis... et référente éducative auprès de MNA.
Donc, des mineurs non accompagnés. MNA, je pense qu'on va dire souvent ce terme pendant
l'émission. C'est ça, il faut l'apprendre. Celui-là, il faut l'apprendre.
Voilà, on va le garder. Merci beaucoup à vous donc, pour cette petite définition. Alors là, ce qui vous inquiète, c'est que l'accueil de ces mineurs qui deviennent majeurs un jour, ça va changer. Hein. Qu'est-ce qui a changé en fait?
Alors, ce qu'on peut dire déjà peut-être vite fait en introduction, c'est que le travail social en ce moment subit toute une série d'annonces qui sont complexes. Hein. Vous avez reçu les éducs de Prèves il n'y a pas longtemps, les éducs de Larnay aussi, Sagesse. On a un secteur où il y a le Ségur qui s'impose. C'est donc une revalorisation salariale dans tout le secteur, mais ce n'est pas financé. Et donc, ça met en difficulté toutes nos associations. Et donc là, la dernière annonce qu'on aurait, c'est donc suite à des restrictions budgétaires aussi sur ces publics-là, on n'aurait plus la possibilité d'accompagner les jeunes jusqu'à 21 ans, mais jusqu'à 20 ans. Donc, ça pose tout un tas de problèmes parce qu'évidemment, il y a les jeunes qui seront accompagnés moins longtemps et éventuellement sans pouvoir aller jusqu'au terme et être prêts à s'insérer dans la société. Mais il y a aussi les jeunes qui sont entre 20 et 21 ans, et qu'est-ce qu'on fait d'eux au jour d'aujourd'hui dans nos services. Et c'est bien ça qu'inquiète en fait tous les professionnels du secteur et aussi les associations. Comment s'adapter à ces annonces.
Vous avez été reçu par le département pour vous annoncer cette évolution. C'était le mois dernier, c'est ça?
Alors, c'est pas nous directement, c'est pas plutôt nos responsables et des associations. Aujourd'hui, nous, on est plutôt du coup les représentants des salariés qui sont en première ligne du coup pour mettre en œuvre ces décisions qui sont très difficiles à gérer sur le terrain.
Et comment ces décisions vous ont été rapportées par vos responsables? Quelles étaient un petit peu les explications que le département a pu donner?
Allez-y. L'explication déjà, elle est budgétaire. Hein, il y a une crise des collectivités territoriales qui est forte. Et il faut savoir qu'en travail social, le département, il a des prérogatives qui sont obligatoires. Par exemple, moi je travaille dans un foyer, on est placé par le juge des enfants. C'est obligatoire que le département ait une place. Puis il y a des prérogatives qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont néanmoins essentielles pour la société. C'était le cas des éducs de rue qui font de la prévention, qui évitent que les situations se dégradent. Et c'est le cas aussi de l'accompagnement des jeunes entre 18 et 21 ans, puisque... Vous savez bien qu'être autonome à 18 ans, c'est déjà difficile pour un jeune qui a tous les étayages familiaux et tout ça. Mais du coup, quand on n'a pas tous ces étayages, c'est encore plus difficile.
Et puis c'est là où, si je peux me permettre de préciser pour les personnes qui connaissent un peu moins, c'est vrai que nous on connaît notre travail, on sait dans quel cadre, donc c'est plus clair pour nous, mais les départements sont dans l'obligation d'accompagner des jeunes qui sont mineurs, et nous on avait la chance jusqu'ici que le département continue cet accompagnement après leur majorité, et là dans ce cadre-là ils ne sont plus dans l'obligation d'accompagner les jeunes, et donc ce sont des mesures qui sont contractuelles, donc les jeunes signent des contrats jeunes majeurs, et nous c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne les personnes qui nous sont confiées. Et donc là où il y a eu maintenant une nouvelle contrainte dans cet accompagnement-là, c'est qu'ils ont la possibilité d'être accompagnés jusqu'à 21 ans, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que dans le cas où une situation d'un jeune avance, s'il peut ou veut sortir avant du dispositif, il en a tout à fait la possibilité. Et qu'aujourd'hui, accompagner les jeunes jusqu'à 21 ans, ça nous laisse aussi, nous, un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir les sortir dans des bonnes conditions des services, et notamment sur la question du travail, sur la question du logement, et sur la question des papiers, d'autant que nos jeunes, quand ils arrivent maintenant à 20 ans, ce qui nous a été annoncé par le département sur les mesures de restriction des conditions de contractuel du contrat jeune majeur, c'est qu'ils sont en général dans cette période-là en renouvellement de titre de séjour, donc ils ont un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui fait que c'est plus difficile pour eux d'accéder au logement avec des documents qui sont en général sur une durée assez courte en plus. Donc le premier récépissé de renouvellement, il est d'une durée de 6 mois, donc les propriétaires ou les bailleurs sociaux, des fois, sont assez réticents à signer des contrats de bail. Et puis, notamment, ils finissent leur apprentissage, puisque ce sont des jeunes qui travaillent. Les conditions d'accès à notre service sont notamment sur la question de la participation à l'hébergement, puisqu'ils payent une participation pour l'hébergement du service dans lequel on travaille. Et que, du coup, ils finissent leur apprentissage. Et la question du travail peut être encore un petit peu en flottement. Donc c'est vraiment la période la plus cruciale dans leur parcours, sur laquelle, là, maintenant, on se voit dans l'obligation de les accompagner un peu vite, là, sur la fin. Et c'est ça qui nous inquiète beaucoup.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Ils peuvent très bien être autonomes à 18 ans, mais c'est rare. Et qu'il faut ce laps de temps jusqu'à 19, 20, 21 ans pour certains. C'est un minimum pour être sûr qu'ils ne vont pas se retrouver à la rue. C'est un peu ça. Hein.
C'est un peu l'idée. Et c'est surtout une complexité dans les démarches administratives qui peut mettre le temps long. Il y a aussi la construction du projet. C'est tous des jeunes qui ont une volonté de travailler, de s'insérer dans la société. Donc là, il n'y a pas de souci pour les mettre en mouvement. Il peut y avoir effectivement, comme dans d'autres situations, des jeunes où la situation est plus particulière. Il y a des besoins spécifiques qui ressortent et ce n'est pas le travail qui est prioritaire. Mais c'est majoritairement des jeunes qui sont dans une dynamique d'insertion. Et c'est la complexité administrative qui amène des ralentissements dans l'accès au logement, dans l'accès aux droits communs. Et donc, voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Ce qui est exactement ce que disait Claire, c'est que les 20 ans, c'est une période assez charnière où il y a un renouvellement de titre. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont mises entre parenthèses en attendant qu'ils aient un nouveau titre.
Et puis, il y a le risque d'avoir une obligation de quitter le territoire français qui tombe à ce moment-là ?
Pas forcément. Pas Après, forcément. Ça, c'est vraiment lié à leur situation et de travail et de active aussi. Le processus a été respecté et quand il n'y a normalement pas de grain dans l'engrenage, c'est pas la question.
C'est pas forcément ça qui vous inquiète. Et alors, ce contrat jeune majeur, qu'est-ce qu'il comprend ? Donc, vous parliez de travail, d'hébergement.
Justement, comme c'est contractuel, il y a des objectifs que les jeunes. En fait, ça part déjà d'une demande. C'est les jeunes qui doivent faire la demande d'accompagnement via ce contrat jeune majeur. Et ensuite, les objectifs sont définis avec le jeune. En général, travailler pendant l'accompagnement dans les services mineurs sur qu'est-ce qu'il y a à travailler. Il y a des jeunes pour qui la question du travail, ça roule, d'autres pour qui c'est plus difficile les démarches administratives. Tu parlais, toi, du coup, de la complexification aujourd'hui des démarches administratives, notamment en ligne. On parle de jeunes qui ne sont pas forcément, qui ne parlent pas forcément, qui n'ont pas une très grande maîtrise du français et encore moins de l'informatique quand ils arrivent ici. Ils peuvent arriver avant l'âge de 16 ans, dans quel cas leur titre de séjour est différent. Et ils ont un titre de séjour qui s'appelle vie privée familiale. Et nous aussi, notamment, ça, on les voit, ces contraintes-là sur le fait que Avant, ces titres de séjour étaient renouvelés sur une durée de 4 ans. Ils avaient un premier titre d'une durée d'un an et puis renouvelés automatiquement sur une durée de 4 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, quand ils sortent, ils ont des titres de séjour qui peuvent des fois être encore un petit peu bancales. J'ai perdu le fil, c'était quoi la question?
Non, mais c'est très clair comme ça, ne vous inquiétez pas. On va continuer à parler d'eux et de leur accompagnement et des craintes là maintenant concrètes.
C'était sur leurs demandes et sur les objectifs du contrat.
Ouais, les objectifs
majeur.
Du contrat. Voilà. Donc sur les craintes que vous avez là et la situation que vous vivez actuellement suite à cette annonce. Juste après ce titre d'Eda Diaz, Sabana y Panano.
Hoy me despertó de mi mamá, quiero ir. Y siento que si me levanto voy a morir. ¿Cómo voy a hacer a que espere el tiempo? ¿Pero por qué será que no obedece el cuerpo?
Xavier, Barbara, Mathilde, Claire et Lucie sont là avec nous aujourd'hui pour parler des jeunes majeurs étrangers et aussi des mineurs non accompagnés puisque leur situation est en train malheureusement d'évoluer. Alors on parlait des contrats jeunes majeurs. A priori, ça ne concerne pas que les jeunes étrangers en fait.
Non, en fait, un contrat jeune majeur, classiquement, c'est n'importe quel jeune de 18 à 21 ans qui est en danger sur notre territoire. On a le devoir de le protéger et il peut demander à contractualiser un contrat jeune majeur. Et ça, c'est la théorie et c'est vraiment très important. Dans la Vienne, jusqu'à présent, on avait plutôt plus de contrats jeunes majeurs qui étaient signés avec les jeunes en général que dans d'autres départements où les restrictions étaient déjà arrivées. Ce que je trouve un petit peu inquiétant dans l'annonce qui est faite là, c'est que ça fait une distorsion entre les jeunes majeurs traditionnels, on va dire, et les jeunes majeurs étrangers qui, du coup, n'ont plus un accompagnement qui serait forcément la possibilité, en tout cas, d'avoir un accompagnement jusqu'à 21 ans. Et c'est cette distorsion qui me semble un précédent préoccupant.
Lucie, vous me disiez hors antenne que c'était vraiment une avancée qu'il y avait dans la Vienne jusqu'à présent. Et là, on perd quelque chose alors que ça aurait dû être peut-être un exemple pour les autres départements.
Oui, pour avoir travaillé dans un autre département, quand je suis revenue sur Poitiers, on m'a annoncé qu'en fait, les contrats jeunes majeurs le jeune pouvait bénéficier d'un contrat jeune majeur entre 18 et 21 ans. Et donc, c'est vrai que là, moi, jusqu'à présent, j'y ai vu les bénéfices, en tout cas, d'avoir cet accompagnement sur du long terme, pouvoir mettre en place des choses, écouter le projet du jeune, même s'il faut quand même aller assez vite, et aussi de passer le relais à des collègues aussi qui peuvent travailler, en fait, tout ce qui concerne les choses essentielles entre 18 et 21 ans.
Vers le droit commun, parce qu'en fait, c'est surtout les dispositifs de droit commun sur lesquels nous, on s'appuie après à la sortie des jeunes, puisqu'il y a encore quand même des soutiens dont ils peuvent bénéficier à la fin de leur prise en charge. Et puis, c'était là aussi où tu parlais de distorsion, Xavier, mais la distorsion, elle est aussi entre les jeunes, entre guillemets, français et les jeunes étrangers, mais elle est aussi sur maintenant les objectifs du contrat, puisqu'on parlait justement il y a des objectifs qui sont instaurés lors de la signature du contrat, qui aujourd'hui ne sont plus respectés, entre guillemets, puisque un jeune qui va demander dans son contrat jeune majeur d'être accompagné, par exemple, vers le logement, et ben là, c'est plus la question, puisque maintenant, c'est 20 ans. Et en fait, ce critère d'âge, il est compliqué pour nous à accepter, puisqu'en fait, on travaille dans le cadre de leur projet, surtout, et de l'accompagnement vers la sécurisation de leur parcours. Et c'est là où le département de la Vienne, en effet, était jusqu'à aujourd'hui assez bienveillant envers leur situation. Mais c'était aussi... nous, c'est des jeunes dont les patrons, aujourd'hui, ont besoin. Ils travaillent, ils travaillent en général dans des métiers qu'on appelle en tension. Et c'est des jeunes... je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais bienfaisants, quoi, qui cherchent vraiment à être bien intégrés. Et nous, de les accompagner jusqu'à leur réelle intégration, était là la plus-value qu'on pensait porter dans le cadre de notre travail.
Et ça risque d'avoir un impact aussi sur les mineurs qui sont accompagnés par rapport à leur projet sur le long terme.
C'est sûr que... Mais alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de pire pour un travailleur social et surtout, évidemment, pour un jeune, d'être que la prise en charge s'arrête sans qu'il y ait rien de finalisé. À 18 ans, si on doit remettre un jeune avec qui on a plein de choses qui sont en cours mais qui ne sont pas finalisées à la rue ou hors de... C'est terrible. C'est terrible, évidemment, pour le jeune. C'est aussi terrible pour les... Et c'est surtout un non-sens social puisqu'on commence un travail qu'on jette d'une certaine manière à la poubelle en ne le finalisant pas et en ne le sécurisant pas. Et ça, je pense que les collègues, elles peuvent vraiment témoigner de cette préoccupation.
Oui, tout à fait. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas travailleurs sociaux, pourraient se dire, mais un an, c'est quoi dans une vie? Et il faut savoir que, justement, tout à l'heure, je parlais d'accompagnement sur le long terme. Un an pour les jeunes majeurs étrangers, c'est énorme, en fait. Il peut se passer plein de choses. Déjà, quand ils arrivent en France, qu'ils aient 15, 16, 17 ans, ça va énormément vite. On leur demande d'apprendre plein de codes, plein de choses. On leur demande plein de choses. Et justement... À partir des 18 ans, ils commencent justement à être plus ou moins intégrés, insérés, à comprendre certaines choses. Et entre 18 et 21, la marge de progression est énorme, en fait. Elle est énorme en termes de compréhension de comment ça se passe en France. Et un an de plus, en fait, c'est un an de plus peut-être de gagner. Et là, on va le perdre pour justement que le jeune comprenne le système. Parce qu'un jeune... On peut dire, un jeune de 18 ans lambda, je ne suis pas sûre si vous lui demandez de comprendre le système français, d'une demande d'aide au logement ou de faire ses documents administratifs. Il y en a certains, certainement, qui le savent, mais très peu. Et donc, je pense qu'un an dans notre travail, c'est beaucoup, en fait.
Et quel est le risque concret pour ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous craignez dans, là, ceux qui vont devoir sortir du système dès janvier, là?
Qu'ils se retrouvent à la rue, tout simplement, en fait. Déjà, les contraintes... au niveau de l'immobilier, d'accès au logement, sont déjà contraignantes pour le tout à chacun. Donc quand on est un étranger et qu'on est encore jeune et qu'on n'a pas encore un CDI, et voilà, ils sortent, comme je l'expliquais souvent, d'un cursus scolaire en alternance. Ils sont globalement tous les jeunes qu'on accompagne dans le cadre de nos services en alternance. Donc ils n'ont pas encore des ressources suffisantes d'accès au logement et puis ils n'ont pas encore... pu expérimenter même le logement en totale autonomie. Donc toute la mise en place du droit commun, on est obligé de faire ça un petit peu là, aujourd'hui à la va-vite. Et puis, qu'est-ce qui risque leur sortie à la fin de leur contrat jeune majeur? Et puis, bah, si on n'a pas de logement, après, c'est compliqué aussi d'aller travailler. Et puis quand on n'a pas la tête à ça, après, refaire ses papiers, c'est compliqué. Avoir accès à un ordinateur pour faire une demande de renouvellement de titre de séjour, un accompagnement. Enfin, c'est des jeunes qui sont déjà au travail sur beaucoup de plans, comme tu disais, Lucie, sur l'apprentissage de la langue, l'apprentissage des codes de la société française. Et donc là, bah, ça vient rajouter, et pour nous, travailleurs sociaux, beaucoup d'incertitudes. Et eux, dans leur parcours... qui est déjà assez chaotique, beaucoup d'angoisse. Et puis, potentiellement, voilà, c'est des jeunes qui ont aussi des ressources. Hein. Ils ont autour d'eux des gens qui, potentiellement, vont pouvoir les accueillir. Mais ça ne sera évidemment pas des conditions idéales, quoi.
Et puis, tout ce travail d'accompagnement est un petit peu gâché, comme vous nous le faites bien comprendre. Quels sont vos moyens d'action, là, aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu rencontrer le département? Est-ce que vous allez avoir des mobilisations pour un petit peu alerter les responsables?
Alors, ça, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. C'est une annonce qui nous tombe un peu dessus. Et en ce moment, on est un petit peu roués, nous, les syndicats du secteur, quand même, d'annonces qui arrivent les unes après les autres, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec le non-financement du Ségur, les difficultés de l'Arned, Audacia, les suppressions des éducs de rue. Si vous voulez, ça dessine quand même une société qui est compliquée. Et quelle société on veut? Ces annonces-là, forcément, elles ont des impacts qui se démultiplient sur le corps social. Donc, bah oui, nous, on essaie déjà d'informer. C'est pour ça qu'on est là, pour ça qu'on fait des tracts et qu'on informe la population. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà mettre le sujet sur la place publique en disant, bon, voilà, on supprime. OK, il y a des objectifs à court terme de réduction des moyens, mais c'est pas des décisions anodines, c'est des décisions qui ont des vraies conséquences sur notre société, et sur le corps social, sur la population. Et donc, bah oui, nous, on va réagir. Alors là, on n'est pas encore en capacité de vous dire quelle mobilisation, mais le 18 novembre, il y a la journée internationale des migrants. Ça pourrait, par exemple, être l'occasion de pouvoir, encore une fois, prendre la parole et essayer de montrer cette problématique sur la place publique. Et plus généralement, nous, on veut défendre le travail social et l'importance de nos métiers qui ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de les restrictions budgétaires actuelles. On a des missions de long terme et il faut nous laisser les faire tranquillement et sereinement.
Merci beaucoup à tous les cinq d'être venus dans Séquence Midi alerter effectivement nos auditeurs, auditrices sur cette situation qui devient inquiétante pour ces jeunes majeurs étrangers. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Grâce à Françoise Boissou du Toit du Monde, on reçoit Antoine Bonneau, directeur du centre d'animation des Couronneries.
Bonjour. Aujourd'hui, le Toit du Monde donne la parole, comme il en a l'habitude, à des organisations amies. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Bonneau, le directeur du centre d'animation des Couronneries, qui va utiliser cette plage horaire pour faire le point des événements d'Halloween. Donc, je vous rappelle, le 31 octobre dernier, une fusillade a eu lieu et Anis a été blessé à la tête. Il en est sorti son décès. Et puis après, ben je donne la parole à Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour, je vous remercie de nous offrir l'occasion de nous exprimer sur ce tragique événement qui s'est déroulé le 31 octobre. Si vous le permettez, je vais revenir un petit peu sur le déroulement de cette soirée. Le 31 octobre, le centre d'animation des Couronneries a organisé une soirée d'Halloween qui a réuni à peu près 300 personnes, plutôt un public très familial. À l'issue de cette soirée, les gens qui avaient participé, en tout cas une partie des gens qui avaient participé, se sont rendus naturellement sur la place Coimbra pour pouvoir se restaurer. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la fusillade, vers 22h45. Ce que moi je peux vous dire, c'est que ce soir-là, le quartier était plutôt joyeux, extrêmement calme. Il y avait d'ailleurs un groupe de jeunes qui étaient en train de tourner un clip de rap dans le quartier. Et tout le monde a été surpris par ce tireur qui est arrivé dans le quartier en voiture. Et donc évidemment, les jeunes qui étaient présents sur le quartier se sont rassemblés sur la place à la suite de la fusillade. Et il y a eu pendant 45 minutes des mouvements de foule, mais en aucun cas une rixe réunissant 400 personnes.
Comme l'avait dit Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, donc il annonçait dans la presse et par communiqué cette rixe de 400 à 500 personnes. Et même, il faisait un amalgame entre... ces jeunes des banlieues, des quartiers et les narcotrafiquants. Qu'en pensez-vous ?
Mais ce que je pense, c'est qu'il a été dit tout et n'importe quoi à la suite de ce drame. qui a vu quand même la mort d'un jeune, hein, et quatre autres blessés grièvement. On a pu voir 400 personnes sur la place, et pour des moments festifs ou alors pour le moment de rassemblement et de recueillement qu'on a eu le samedi qui a suivi.
Après la mort d'Anis.
Après la mort d'Anis, effectivement.
Donc depuis, le ministre ne s'est pas remis en question. Madame la maire avait pourtant demandé qu'il réponde de ses erreurs et qu'il nie cet amalgame.
Madame la maire l'a demandé, mais un collectif d'habitants de la table de quartier a aussi écrit au ministre pour demander qu'il s'excuse. Je pense qu'il ne s'excusera jamais. En attendant, nous, on essaye pour le centre d'animation de rétablir au mieux la vérité et la réalité de ce quartier, qui est un quartier complexe, bien évidemment qui connaît des grandes difficultés et qui a aussi effectivement du trafic. Mais c'est en loin, et c'est une toute petite minorité, c'est en loin représentatif de ce qu'est ce quartier, très diversifié, cosmopolite.
Je vous remercie. Je pense que les habitants du quartier avaient besoin de cette mise au point. Merci Antoine.
Merci à vous.
Et merci à vous Françoise pour effectivement cette mise au point. Demain dans Séquence Midi, on parlera du service d'accompagnement dans les transports en commun sur le secteur de Poitiers, un service qui sera destiné aux personnes empêchées dans leur mobilité. Et tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Et il est présenté par Yves.
Et oui, bonjour tout le monde, voici quelques sorties culturelles que je vous ai sélectionnées. Alors tout d'abord, pour bien commencer la semaine, pourquoi ne pas aller regarder un film ? Animal Fiction de Emma Benesta sera projeté cet après-midi au TAP Castille. Deux séances sont prévues, l'une à 14h et l'autre à 16h30. C'est l'histoire de Nejma qui s'entraîne dur pour réaliser son rêve de remporter la prochaine course camarguaise, concours où l'on défie des taureaux dans une arène. Alors attention quand même, c'est un film un peu inquiétant, un peu horreur, où l'on ne sait pas trop ce qui se trame, au début en tout cas. C'est Animal et vous pourrez le visionner aujourd'hui à 14h ou 16h30 au TAP Castille. Mais des séances sont prévues également mardi, jeudi et mardi, mercredi et vendredi. Et si vous préférez un moment plus détente, venez découvrir les ateliers lecture du Clou, librairie de livres d'occasion de Chauvigny. Venez avec votre livre du moment afin de pouvoir en parler, de le faire découvrir à d'autres personnes, d'en lire un passage, etc. Ça se passe au Clou aujourd'hui à partir de 18h. Et sinon à Poitiers, le Biblio Café organise des singing sessions. Poussez la chansonnette a cappella ou accompagnée en acoustique, venez chanter à plusieurs ou juste venez écouter les autres. Chansons principalement en anglais, d'où le nom de Singing Sessions, mais il n'exclut pas d'occasionnels écarts dans d'autres langues. C'est donc à 19h aujourd'hui au Bio Café. Et pour terminer la journée, No Overland passe au cinéma Le Dietrich ce soir à 19h. No Overland, c'est un film documentaire qui retrace l'histoire de l'amitié entre un activiste palestinien et son travail de documentation de l'expulsion de sa communauté et un journaliste israélien qui va le soutenir dans ses démarches. Rendez-vous donc à 19h au cinéma Le Dietrich.
Merci beaucoup. Que de propositions pour un lundi. Merci Yves, on te retrouve dès demain dans Espace Matin. On se quitte avec Banzai Lab, c'est un label bordelais qui a fêté ses 15 ans l'an dernier et qui sort justement à cette occasion une compilation cette année, Banzai Lab Orchestral. Voici un extrait, Slum et le Josem, Aurora Orchestral. Bon après-midi, à demain.